Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Galère, fréquence 88.4. Je m'appelle Sarah, fondatrice de la Ligue des juristes pour la paix, et c'est moi qui ai l'honneur d'animer Une heure en Palestine aujourd'hui. Le thème de l'émission ce soir, de Marseille à Gaza, regard croisé sur l'oppression. Avec moi pour traiter de l'actualité en Palestine et nos territoires, nous avons Nathan et Camille du collectif Tzedek, collectif juif décolonial, Yanis, un militant antiraciste marseillais et principalement dans les quartiers nord de Marseille, Fatou, qui représente le nouveau collectif de lutte contre l'islamophobie à Marseille, et Lola, qui parle au nom de l'association de Marseille à Gaza. Merci à tous d'être présents aujourd'hui.
Merci beaucoup.
On commence donc par l'actualité aussi dense qu'horrible de ces derniers jours. Yanis, est-ce que tu peux nous parler de la flottille de la liberté ?
Oui, alors bonjour Sarah déjà, bonjour tout le monde. Alors il y a 12 personnes qui sont montées sur un bateau qui est parti d'Italie le 1er juin. Ce bateau il s'appelait Madeleine ou flottille pour la liberté. Le but c'était évidemment symbolique, c'était briser le blocus à Gaza. Le blocus qui touche la population palestinienne de Gaza, puisqu'il faut savoir qu'Israël a coupé toute arrivée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis plusieurs jours, et qu'il faut actuellement 500 camions d'aide humanitaire par jour pour pouvoir nourrir toute la population. Alors évidemment, ce n'est pas le petit bateau là qui allait tous les sauver, mais c'était évidemment symbolique et pour enjoindre tout le monde à faire la même chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ce bateau est parti il y a quelques jours. Il s'est fait arrêter par les autorités israéliennes au large des côtes gazaouies, dans les eaux internationales, il faut préciser, parce que c'est illégal au regard du droit international, évidemment. Les personnes ont été arrêtées. Les premiers ont pu rentrer il y a déjà plusieurs jours, dont Greta Thunberg ou Baptiste, membre de la PHM de Marseille, médecin. Baptiste, on l'a accueilli il y a quelques jours à Marseille. Il nous expliquait que s'il faisait partie des premiers qui ont pu rentrer, c'est parce qu'il a dû signer un document mensonger, un document où il a dû reconnaître avoir pénétré illégalement sur les terres israéliennes. Voilà. Et donc accepter une interdiction de 100 ans du territoire palestinien occupé. Pour le reste de l'équipage, évidemment, Rima, Yanis, etc., les dernières personnes qui ont pu rentrer jusqu'à à peine hier, pour Yanis, le journaliste de Blast, tout le monde est en bonne santé et bien déterminé à repartir et à enjoindre tout le monde à faire la même chose. Ce bateau-là nous a montré une chose, c'est qu'il faut briser les interdits, c'est qu'on ne peut pas se contenter dans une situation pareille, aussi inégale, de rester dans la dénonciation. En fait, il faut agir. Et on voit avec tout ce qui se passe par ailleurs dans l'actualité, Soumoud, etc., qu'on évoquera plus tard. Ce bateau-là, c'était vraiment un appel à l'action et bravo à nos héros.
Merci beaucoup Yanis pour ce résumé. Lola, en effet, la flottille de la liberté, c'est pas la seule initiative humanitaire de ces derniers jours ?
Non, en effet, la semaine dernière, des centaines de militants pacifiques sont venus de plus de 50 pays pour tenter de rejoindre la frontière de Gaza afin d'exiger le cessez-le-feu, le lever du blocus et l'acheminement de l'aide humanitaire vers Rafah. Ils devaient se retrouver au Caire, mais au lieu de laisser passer, l'Égypte a organisé une répression brutale et systémique de tous les marcheurs sur place. On a eu plus de 200 interpellations, des militants qui ont été suivis, interrogés, expulsés. Il y en a même qui ont été enfermés dans leur hôtel, privés d'eau, de nourriture, de contact. On avait un camarade marseillais sur place, on a été en contact avec lui toute la semaine dernière. Il a finalement été arrêté. Il nous disait, ils savaient où j'étais, ils m'ont dit, essaie même pas d'y aller, on saura que tu es là-bas. Donc il a finalement été libéré, mais il a été forcé de renoncer, comme tous les autres marcheurs sur place. La stratégie, elle est claire, c'est faire peur, isoler, briser la mobilisation. En parallèle, il y avait le convoi Al-Soumoud, une caravane qui est partie d'Alger et de Tunis, avec plus de 1200 personnes et 100 véhicules, qui ont tenté de rejoindre Rafah via la Libye. À Sirte, ils ont malheureusement été bloqués par les forces de Haftar avec l'appui de l'Égypte. Les réseaux coupés, l'aide humanitaire qui transportait saisie, les militants encerclés, menacés, certains ont été arrêtés. Et du coup, le convoi a été forcé de faire demi-tour. Les 13 détenus qui ont été arrêtés sur place ont été libérés le 18 juin. Et comme le disait Yanis, cette retraite, c'est pas un échec. Elle révèle que briser le blocus de Gaza, c'est pas seulement une question de frontières, c'est affronter un système de pouvoir soutenu par les complicités régionales et aussi internationales. Et ce qui dérange, c'est pas les camions, c'est la liberté des peuples qui marchent. Et on dit souvent que Gaza est isolée, mais Gaza n'est pas isolée par manque de solidarité. Elle est isolée par excès de trahison. Et merci beaucoup à ceux et à celles qui ont tenté. Ça ouvre une brèche et c'est à nous de faire en sorte qu'elle ne se referme pas.
Merci beaucoup Lola. Et on adresse notre soutien indéfectible à tous les marcheurs, les membres du convoi Al-Soumoud et évidemment les membres de la flottille de la Liberté. Autre actualité qui fait beaucoup de bruit en ce moment, ce sont les bombardements en Iran. Nathan et Camille, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ?
Oui, bonjour à toutes et à tous et merci d'abord pour l'invitation. Alors, les camarades de la rédaction de TZEDEC ont rédigé un communiqué qui n'est pas encore publié, qui le sera ce soir ou demain. Alors, on vous propose de le lire en prime pour l'émission. Les attaques lancées par Israël sur l'Iran marquent le franchissement d'une nouvelle étape dans l'embrasement généralisé de la région que le régime sioniste semble déterminé à provoquer. Présenté par le gouvernement israélien comme des frappes préventives destinées à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, elles répondent en réalité à un objectif bien plus inquiétant, susciter une escalade et entraîner les États-Unis dans une guerre afin de mettre en œuvre un changement de régime à Téhéran. Depuis plusieurs décennies, Israël mène contre l'Iran une guerre indirecte faite d'assassinats ciblés, de cyberattaques, de sabotages et de frappes aériennes. Pour le régime sioniste et particulièrement pour Netanyahou, qui a bâti depuis plus de 30 ans sa carrière politique sur la dénonciation de la menace nucléaire iranienne, l'Iran constitue l'ennemi absolu, le Reich islamique pour reprendre son vocabulaire. La semaine dernière
a constitué un point de bascule dans cette guerre. Outre les attaques sur plusieurs sites nucléaires, Israël a bombardé des immeubles d'habitation pour atteindre des hauts gradés et des négociateurs de l'accord sur le nucléaire, provoquant des centaines de victimes civiles, présentées comme à son habitude par la propagande israélienne comme des victimes collatérales. Dans une seule frappe sur un immeuble résidentiel de Téhéran, plus de 60 personnes ont ainsi été tuées, dont près de 20 enfants. Un certain nombre de missiles iraniens ont provoqué une vingtaine de morts. Envoyés en réponse à ces attaques, ont franchi le système de défense israélien, ont provoqué une vingtaine de morts. Il apparaît clairement qu'en réalité, l'agression israélienne ne vise pas à détruire le programme nucléaire iranien, mais bien à fragiliser le régime en terrorisant la population. Des hôpitaux étaient touchés par des bombardements et Donald Trump a averti les plus de 10 millions d'habitants de Téhéran via son compte Truth Social qu'ils et elles avaient quelques heures pour fuir. Peu de temps auparavant, le bâtiment de la télé nationale avait été pris pour cible, contraignant un journaliste en plein direct à se mettre à l'abri.
Iran se retrouve ainsi bombardé par un État qui commet un génocide, qui viole le droit international au vu et au su de tous, qui possède illégalement l'arme nucléaire et refuse tout contrôle de l'Agence atomique internationale de l'ONU. Un État qui depuis un an et demi a attaqué les populations du Liban, de la Syrie, de l'Irak, du Yémen et dont les dirigeants sont animés par une idéologie messianique. Pourtant, la plupart des chancelleries européennes se sont empressées de réaffirmer le droit d'Israël à se défendre au mépris du droit international le plus élémentaire, à commencer par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président de la République Emmanuel Macron, ainsi que l'écrasante majorité des responsables politiques français. Ce mantra est inlassablement répété sur tous les plateaux des médias mainstream où les soutiens du régime sioniste justifient l'agression israélienne par la nature autoritaire et réactionnaire du régime de Téhéran, l'oppression des femmes iraniennes, la persécution des minorités ou encore la répression brutale qu'il a mise en œuvre contre ses opposants. Il s'agit là de réalités indiscutables et pour autant il convient de rappeler aux soi-disant défenseurs des valeurs démocratiques que les bombes occidentales comme ces ingérences ont toujours lamentablement échoué à améliorer le sort des populations sur qui elles s'abattaient, que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Libye, au cours des dernières décennies ou dans toute la région, toutes les régions du monde où l'Europe a prétendu réaliser sa mission civilisatrice par la domination coloniale.
En dépit des rodomontades de ses dirigeants, la fuite en avant destructrice d'Israël est en réalité la conséquence de son affaiblissement. L'ampleur des atrocités commises dans le cadre du génocide à Gaza rend de plus en plus intenable le soutien inconditionnel des États occidentaux dont il a longtemps bénéficié. Sur le plan militaire, derrière ses prétentions à assurer par ses seuls moyens la sécurité des Juifs et Juives à travers le monde, la réalité est celle d'une dépendance complète aux États-Unis, que ce soit pour la poursuite du génocide à Gaza ou ses velléités de faire chuter le régime iranien. Alors que la tension générale est entièrement tournée vers l'Iran, Israël accélère le nettoyage ethnique en bombardant le nord de Gaza et adapte des lois entérinant l'annexion de toujours plus de territoires en Cisjordanie. Face au désastre, Notre tâche de militants, militantes anti-impérialistes est claire. Amplifier la campagne BDS, construire un front large contre la guerre, organiser ici et maintenant la solidarité internationale, imposer la fin de l'impunité d'Israël, afin de porter secours à une population martyre et à terme de rendre justice au peuple palestinien.
Merci pour ce communiqué qui traduit l'émotion et les réactions à géométrie variable qui nous font presque oublier qu'il y a un génocide en cours à Gaza. Fatou, on a appris qu'il y a un blackout à Gaza et le génocide n'est pas fini.
Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques semaines, l'entité sioniste a bloqué pendant plusieurs jours toute communication dans la bande de Gaza. Et ce blackout a laissé Gaza silencieuse alors que les bombes pleuvaient toujours sur elle. Et les Gazaouis étaient également plongés dans le noir, sans nouvelles de leurs proches, sans aucune information. Que ce soit sur des demandes d'évacuation, du nombre de blessés ou des zones touchées par les bombardements où peuvent se trouver le reste de leurs proches. Et ce blackout et ces intermittences de connexion, elles laissent finalement les Gazaouis encore plus isolés. Je trouve ça particulier que ce blackout il s'est mis en place au même moment où les militants et les personnes du monde entier se sont mobilisés par des voies maritimes comme la flottille, ou terrestre avec le convoi Soumoud ou la marche to Gaza. Des milliers de personnes ont pris, des centaines de personnes ont pris l'avion. Par toutes les voies possibles, des gens se sont mobilisés pour espérer briser le blocus ou apporter une aide humanitaire. Donc ces stratégies du gouvernement d'extrême droite, finalement, elles isolent, elles affaiblissent et elles veulent empêcher tout espoir de force des résistances des Gazaouis. Une autre raison de ce blackout, c'est de censurer l'information. Et comme on le sait, il n'y a aucun journaliste qui peut entrer dans la bande de Gaza. Et le gouvernement d'extrême droite cible délibérément les journalistes palestiniens. Et donc, une fois de plus, l'information est volontairement muselée. Ces temps de blackout sont aussi des temporalités d'exaction de masse, comme on a pu le voir. Donc on sait qu'il y a eu un blocus complet depuis 4 mois. Et notamment la journaliste Bissan qui explique l'armée israélienne, en fait, elle force les populations palestiniennes à se regrouper sur la côte. Donc le nord de la bande de Gaza, le sud de la bande de Gaza et l'ouest est complètement délaissé. À savoir que ces zones-là étaient principalement des terres agricoles qui permettaient un peu de cultiver et d'avoir un tant soit peu de nourriture. Un peu de nourriture. Également aussi des bombardements ont eu lieu au niveau des zones maritimes pour empêcher les pêcheurs de ramener du poisson ou de s'organiser, en tout cas dans la lutte contre la famine qui se met en place depuis plusieurs mois. C'est en même temps dans cette volonté de famine que plus aucune ONG, notamment l'UNRWA, qui est quand même qui permet en tout cas de mettre en place en fait une aide alimentaire depuis des années, qui est notamment, Pissan explique, qui est expérimentée, qui établit une distribution alimentaire juste. Là, en fait, c'est une fondation israélo-américaine qui est mise en place et qui distribue sur 3 petites zones dans le sud des colis, environ 1000 ou 2000 colis alimentaires qui sont distribués dans des sortes de cages. Et en fait, ça entraîne des mouvements de masse, de la violence, et à ce moment-là, en fait, des bombardements ont lieu et des tirs de l'armée israélienne aussi, entraînant beaucoup plus de morts. Et donc, ces temps-là se sont faits également pendant ces moments d'intermittence, de coupure, qui sont des stratégies de l'armée israélienne. Notez aussi que, juste un petit rappel, ces tirs qui contiennent des balles reliées par des maillons qui sont fabriqués notamment ici à Marseille, à Château-Gombert, par l'usine Eurolinx, mettent la France aussi dans une grande culpabilité face à ce génocide. Et il y a notamment un rassemblement aujourd'hui à 19h qui a lieu pour augmenter un petit peu et dénoncer l'usine Eurolinx qui est responsable également du génocide.
Merci beaucoup Fatou. On salue évidemment les camarades qui se rejoignent au métro La Rose ce soir à 19h pour dénoncer la complicité de l'entreprise Eurolinks qui se trouve à Château-Gombert, Marseille. Et on invite évidemment toutes celles et ceux qui nous écoutent de suivre l'actualité et de ne pas se laisser avoir par les grands débats autour des bombardements de l'Iran et de la mission civilisatrice, comme disait Nathan, de l'Occident. Pour ce faire, il y a plusieurs comptes à suivre sur les réseaux sociaux, déjà Tzedek, de Marseille à Gaza, Vague Résistante 13, mais aussi les comptes des premières et premiers concernés qui, malgré avoir leur vie en péril chaque jour, continuent de témoigner sur ce qui se passe et nous demandent concrètement d'agir avec des vrais call to action à suivre. Je vous remercie pour ces petits points d'actualité et on passe à la petite pause musicale avant la suite de l'émission. Bonjour, vous écoutez toujours Radio Galère, fréquence 88.4, et nous sommes toujours en compagnie de Tzedek, de Marseille à Gaza, Vague Résistante 13, et Yanis, militant antiraciste marseillais des quartiers nord. Le thème de cette émission, comme nous le disions, c'est un regard croisé sur les oppressions. Pour comprendre les racines théoriques qui expliquent le manque de réaction et d'indignation face à la situation des Palestiniens, j'aimerais introduire les prochaines interventions en lisant un poème de Mohamed Nour Hayed que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et qui s'appelle « Gaza sur scène ». Gaza sur scène. Si Gaza était la scène, un seul cri suffirait pour que chancelle l'ordre et que le monde pleure. Mais là, c'est loin, c'est flou. Que vaut un mort muet quand il n'est pas né sous un drapeau vainqueur ? Il dîne en paix pendant que brûlent des berceaux. Le pain se rompt ici, sans goût de cendre ou d'os. L'enfance meurt en boucle, et nul ne tourne la tête, car Gaza n'est pas assez blanche pour qu'on s'arrête. Ce poème nous montre bien qu'à la base de ce qui se passe en Palestine, ce qui permet de justifier l'horreur depuis les 20 derniers mois, mais même depuis 75 ans, c'est une base raciste, coloniale et impérialiste. En préparant cette émission, Yanis, on parlait du traitement médiatique français de la situation à Gaza et de notre actualité dans nos territoires. Est-ce que tu penses qu'on peut considérer qu'il y a un nouveau tournant islamophobe ou du moins raciste qui s'est installé depuis le début du génocide à Gaza ?
Ça, je te dirais que toute entreprise coloniale a toujours mobilisé un narratif raciste pour justifier l'inacceptable, l'inhumain envers la population colonisée. Et c'est en ce sens que l'idéologie sioniste s'appuie énormément sur l'infériorisation et la déshumanisation de la population palestinienne. Et on assiste depuis le 7 octobre à un tournant puisqu'il y a une parole sioniste et ses relais parfois politiques et médiatiques qui sont surreprésentés en fait dans le discours public. Et cette surreprésentation, elle a entraîné clairement une extrême droitisation à la fois du champ politique et du discours ambiant. On assiste également depuis le 7 octobre à une alliance d'intérêts, une alliance de circonstances entre d'un côté les défenseurs du colonialisme israélien et une extrême droite historiquement antisémite. Et cette alliance, elle s'est faite autour, ou plutôt au détriment, de la figure du musulman qu'on expose comme l'ennemi ultime, l'ennemi au centre des intérêts de ces deux parties normalement antagonistes.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet amalgame qui peut exister entre musulmans, arabes, étrangers, terroristes ?
Déjà depuis 2001, on assiste à un discours, il y a un discours dominant qui n'amalgame pas forcément, mais qui s'attache à jeter un flou sur l'islam et le terrorisme en surinvestissant des néologismes tels que l'islamisme sans jamais l'expliquer ou sans jamais le mettre en contexte. Là où c'est encore plus prégnant depuis le 7 octobre, c'est que la parole sioniste s'est attachée à construire la figure du Palestinien et par extension de l'arabe et du musulman comme intrinsèquement, comme par essence antisémite et comme menace existentielle pour la société occidentale.
Et tu disais qu'avant, on attendait de la personne musulmane en France de s'intégrer à tout prix. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas ?
En fait, je pense plutôt qu'il y a un racisme hégémonique qui a changé. Là où Macron 2017, c'était très un racisme libéral, bien qu'il nous ait parlé de séparatisme il y a encore quelques années, c'est-à-dire l'idée où les musulmans feraient sécession, ne souhaiteraient pas vivre avec les valeurs républicaines ou avec la société française. Le racisme hégémonique d'il y a quelques années, c'était très Macron premier mandat, printemps républicain, où c'est-à-dire qu'on va mobiliser des valeurs républicaines, des luttes progressistes, notamment le féminisme, c'est beaucoup le cas avec le féminisme. On va mobiliser toutes ces luttes-là pour taper sur les musulmans, pour justifier des politiques islamophobes. Très sincèrement, c'est un racisme qui, avec le temps, n'a plus trop rencontré son public en dehors de certains plateaux télé, puisque lorsque la France mobilise les luttes féministes, elle le fait pour empêcher ses athlètes voilés de concourir aux Jeux Olympiques. C'est le seul pays au monde qui l'a fait. Donc la ficelle était vraiment trop grosse et trop grossière. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur un racisme de type conspi ou essentialiste. C'est-à-dire que pour taper le musulman, même le plus intégré, même le plus gentil qui puisse exister dans la société, on va le taxer d'entrisme ou de taqiya. C'est-à-dire que, au fond, il ourdirait un complot pour faire tomber la République. Et le rapport, je vais prendre un petit exemple d'actualité encore assez récent, le rapport sur les frères musulmans. C'est quand même un rapport, je vais juste citer quelques passages. On nous parle quand même de 400 à 1000 membres, plutôt vieillissants, plutôt désorganisés. Et pour ces 400 à 1000 membres, ça nécessite un conseil de défense extraordinaire demandé par Retailleau. Ça nécessite des bandeaux tous les jours sur BFM. Donc là, on voit vraiment qu'on marche sur la tête et qu'on va de plus en plus loin dans la surenchère. C'est le nouveau racisme à la mode, si je puis dire. C'est ce racisme-là conspirationniste.
Oui, tout à fait. Et opposer Israël et la Palestine comme un État démocratique face à des terroristes sauvages, ça renforce cette vision raciste.
C'est ça, totalement. Quand on alimente le discours qui serait de dire Israël, la seule démocratie du Moyen-Orient qui se bat contre une Palestine peuplée de sauvages et de terroristes, bah forcément ça renforce le racisme puisque ça renforce les stéréotypes sur les personnes musulmanes ou arabes dans nos sociétés occidentales.
Et au-delà des politiques clairement islamophobes qui s'enchaînent depuis 2004 déjà, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans les médias, mais aussi d'autres sphères, ce racisme conspi?
J'ai envie de te dire, déjà un peu avant 2004, même si c'est vrai que 2004, ça marque quand même une certaine ligne de fracture. On rentre en fait depuis quelques temps, depuis particulièrement en fait le 7 octobre, on rentre en fait dans un agenda médiatique. De plus en plus théâtral, de plus en plus absurde, où on se demande même si les musulmans ne sont pas responsables de la pénurie d'œufs ou d'huile. Ça peut vous faire sourire, mais au final, quand on parle des musulmans matin, midi et soir sans jamais leur donner la parole et en posant toujours l'image du musulman comme étant le problème intrinsèque à la société, au final, ça a des conséquences matérielles bien concrètes. Christophe B., l'assassin de Hichem Mirawi, il publiait juste avant son attaque, il a publié une vidéo où, après avoir rendu hommage au Rassemblement National, il nous expliquait qu'il faut dire stop aux islamiques, je cite mot pour mot, il faut dire stop aux islamiques français, réveillez-vous. On voit bien l'idéologie qu'il y a derrière, on voit bien la légitimité qu'il a posée dans son action, c'est-à-dire qu'il se sentait en fait en légitime défense. Et ce sentiment de légitime défense, il est instillé par tout le discours médiatique ambiant. Lorsque Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et des Cultes, dit « abat le voile », bah dans « abat le voile », il y a « abattre ». Et le mot là « abattre » a des conséquences matérielles sur la vie des uns et des autres.
Oui, c'est plus qu'un simple discours d'une seule partie de l'extrême droite ou des politiques français, et ça a des vraies conséquences. Fatou, toi, tu fais partie d'un nouveau collectif qui lutte contre l'islamophobie à Marseille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la mobilisation dans notre ville, de quoi c'est parti et comment vous vous êtes organisé?
Ouais, bah, c'est le tout début encore, hein. Y a une petite création et une construction en cours. Mais en fait, suite à le meurtre, l'attaque terroriste de Aboubakar Cissé, Allah yarhamou, il y a eu une volonté de se réunir déjà. La communauté musulmane avait envie de se réunir et de se mobiliser. Et en fait, c'est dans ce contexte en fait qu'on s'est vu et qu'on avait envie de se dire, il faut qu'on s'organise. En fait, on peut plus laisser faire ça. On sent que le climat anxiogène en France, en fait, il ne fait qu'augmenter, et que si nous on ne s'organise pas, il risque d'avoir d'autres Aboubakar Cissé, et dans cette crainte là, pour nous, pour nos parents, pour nos frères et sœurs et pour nos enfants, on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ensuite, je voulais aussi parler que c'est pas depuis la mort d'Aboubakar Cissé que l'Irakmo qu'on est mal. Ça fait déjà plusieurs décennies en fait qu'on sent que la communauté est visée sans cesse. Donc c'est les musulmans, les arabes et les noirs. En fait, il y a toujours un lien très fort entre le racisme du fait d'être arabe ou noir et l'islamophobie.
Et ça, du coup, tu ressens une certaine anxiété omniprésente des personnes que tu as pu rencontrer à l'occasion de la création de ce collectif. Il y a de la peur, du désespoir, une envie de partir.
Oui, il y a de la peur, du désespoir, une envie de partir. Et il y a eu une envie de se mobiliser aussi. Et c'est vrai que c'est dans ce contexte, il y a des frères et sœurs qui sont partis voir des interrogants antiracistes aussi, notamment pour appeler à un soutien. Et en fait, c'était important aussi pour nous de nous mobiliser dans la manière dont on avait envie. Et c'est vrai que même dans ces moments-là, ben, en fait, ben, des personnes ont reçu de la violence, des propos islamophobes, de l'infantilisation. Et en fait, moi, ça me questionne aussi sur justement ces alliés. Est-ce que c'est réellement nos alliés? Est-ce qu'il y a quand même... des perspectives de formation et de discussion à entretenir avec eux sur la question de l'islamophobie, parce que je pense qu'elle n'est pas claire pour tout le monde.
Donc même dans les milieux antiracisme, tout ce qui est injonction aux musulmans à être discret, à ne pas faire de bruit, à toujours être suspecté, donc on doit se fondre dans le corps républicain comme si le musulman finalement n'était pas un citoyen français comme les autres, ça a des répercussions même au sein de milieux militants qui se disent antiracistes. Et on se rend plus compte de nos pratiques qui peuvent être problématiques.
Exactement.
Et quels seraient alors les besoins dans nos territoires, notamment à Marseille, pour faire avancer la lutte contre l'islamophobie?
Beaucoup de choses. On s'est dit que c'était bien d'organiser déjà une réunion publique qui a eu lieu le 31 mai à la Fraternité, dans le 3e arrondissement. L'idée, c'était d'inviter en tout cas les premiers et premières concernées, ainsi que les alliés qui étaient OK pour venir apporter le soutien à cette lutte, et de travailler sur des groupes de travail sur quelles actions, quels événements, actions, sensibilisation on pouvait mettre en place pour nous. Et pour l'ensemble des musulmans qu'on pourrait côtoyer, et également comment communique-t-on, qui est finalement le nous, d'accord, les musulmans. C'est une réelle question qu'on a eue lors d'un groupe de travail sur la communication et la réflexion d'une charte à élaborer. Et l'idée est clairement de pouvoir aussi réfléchir dans notre territoire sur nos enjeux clairement territoriaux, mais également aussi de proposer aussi cette charte dans d'autres villes, et qu'elle puisse avoir en tout cas une force beaucoup plus grande que celle du territoire. Donc ça se joue à la base sur nos vies, nos vécus, notre territoire, et l'idée c'est aussi qu'elle parle aussi sur d'autres territoires.
Et la question du nous, elle est importante parce que, comme le disait Yanis juste avant, on a ce flou, cet amalgame entre tout ce qui peut être étranger et donc une menace et le musulman en France. Je te remercie pour ton témoignage, Fatou.
Merci à toi.
Nathan et Camille, vous êtes donc membres de TSEDEC, comme on le disait juste avant. Comment vous résumeriez déjà en une phrase les objectifs de votre collectif pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ?
Donc le collectif TSEDEC, c'est un collectif qui est né en juin 2023 et qui a pour objectif de lutter contre le racisme d'État et contre la colonisation en Palestine et le régime sioniste.
Et puis par ailleurs, à TSEDEC, on a aussi vocation à créer un espace communautaire ouvert et accueillant et le plus large possible vis-à-vis de toutes les personnes juives qui refusent de vivre leurs coutumes, leur foi, leur religion sous la propagande sioniste, et du coup de pouvoir s'assembler et être une maison commune pour des juifs et juives anti-sionistes.
Il y a encore une grande confusion entre les notions d'antisémitisme et d'antisionisme, y compris dans les tribunaux à l'heure où la répression au soutien propal ne décroît pas. D'ailleurs, en ce moment même, le procès d'Anas Kassib, porte-parole de Révolution Permanente, qui est poursuivi pour un tweet en soutien à la Palestine et accusé de terrorisme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre l'antisémitisme et l'antisionisme ?
Alors oui, il faut revenir sur chacun des termes. L'antisémitisme, c'est un racisme extrêmement profond et extrêmement ancien qui traverse toute l'histoire de la modernité européenne et occidentale, et qui consiste à voir dans les juifs et les juives des corps étrangers à la nation, aux sociétés, dans lesquelles ils évoluent, est toujours soupçonné à des degrés divers de ourdir un complot ou un autre, ou d'agir de façon plus ou moins larvée, plus ou moins cachée, afin de nuire en fait à la aux sociétés dans lesquelles ils évoluent. Ça a traversé toute l'histoire de la modernité européenne, hein, de la Reconquista espagnole au XVe siècle jusqu'à évidemment son acmé dans la destruction des Juifs d'Europe au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est l'antisémitisme. Le sionisme, c'est un projet politique né dans le monde européen. Juif ashkénaze, mais en fait on en trouve des traces aussi chez les protestants, chez les évangélistes dès le XVIIe siècle sous Cromwell en Grande-Bretagne, et qui a pour but d'envoyer les juifs vivre, de concentrer en quelque sorte les juifs en terre de Palestine. Alors, dans sous sa version moderne, à la fin du XIXe siècle, ce projet politique se concrétise sous la forme, voilà, on est dans le feu du nationalisme, du colonialisme européen, et les élites bourgeoises, ashkénazes, assimilées, européennes, mais qui prennent de plein fouet l'antisémitisme européen galopant, vont vouloir se tailler un petit bout de territoire, une petite nation coloniale à elle. C'est très clair dans Der Jugendstaat, le manifeste de Theodor Herzl, qui est un des pères du sionisme. Ce sera encore assez clair chez David Ben-Gourion, qui sera le premier ministre de l'État d'Israël, premier ministre. Et ce projet politique a pour vocation, et il est colonial en ceci, qu'il cherche à fonder une souveraineté étatique juive exclusive en terre de Palestine qui est habitée depuis des siècles par une multitude de populations, dont par ailleurs une minorité juive, et qui va être progressivement repoussée, parquée, détruite, morcelée, fragmentée par l'appareil colonial israélien dès les premières implantations, a fortiori après la déclaration Balfour, au moment où le projet sioniste va se brancher sur les intérêts de l'impérialisme occidental, et puis à partir de 1948 et la fondation de l'autoproclamation de l'État d'Israël, la Nakba, Der Yassin, les massacres, et puis évidemment le processus continué. D'ailleurs, beaucoup parlent de Nakba continuée, tant le processus de destruction, de fragmentation, de dispersion de la Palestine est consubstantiel du projet d'expansion coloniale sioniste qui cherche à fonder cette souveraineté étatique juive exclusive entre la Méditerranée et le Jourdain.
C'était très clair, merci beaucoup Nathan. Mais alors pourquoi il y a autant de confusion entre antisionistes et antisémites ? Est-ce que finalement ce serait pour servir un discours raciste et colonial en France comme en Palestine ?
Oui, bah évidemment, il y a un intérêt des dirigeants israéliens et de tous leurs alliés dans le monde occidental à amalgamer sionisme et judaïsme. Le judaïsme, c'est une culture au sens plein du terme, c'est une histoire, c'est une religion, ce sont des coutumes qui définissent des trajectoires et des identités bien particulières. Et le sionisme est le projet politique que je viens de rappeler, mais si être anti-sioniste, donc s'opposer à ce projet colonial, finalement revient à être antisémite, alors on ne peut plus critiquer le projet colonial. C'est une façon de justifier l'injustifiable, et ça a une histoire, cette façon de ne pas répondre des actes coloniaux en tant que tels, mais de toujours botter en touche et accuser en antisémitisme toute personne, le pape, l'ONU, Jean-Luc Mélenchon, à peu près toute personne qui s'oppose à Israël aujourd'hui se voit taxée d'antisémitisme. C'est notamment lié au fait, après 1967, que beaucoup d'États à l'ONU, d'États ex-colonisés, acquièrent une place à l'Assemblée Générale, votent une résolution qui qualifie le sionisme de racisme en 73, qui a été retirée depuis. L'État d'Israël prend peur. D'ailleurs, il vient de conquérir la Cisjordanie et Gaza après la guerre de six jours, et en bafouant totalement les principes du droit international. Et alors, afin de justifier l'injustifiable, de justifier un état de fait qui piétine les droits internationaux, alors que l'ONU l'accable parce que les pays ex-colonisés défendent la Palestine, ils vont de plus en plus développer cette rhétorique qui consiste à systématiquement jeter le discrédit moral, c'est-à-dire accuser en antisémitisme toute personne qui élève la voix contre les exactions du régime colonial israélien.
Donc l'antisémitisme, c'est une occurrence du racisme qui est à condamner et condamnable évidemment. Et est-ce qu'on peut se contenter de lutter contre cette forme-là de racisme sans s'intéresser à tout ce qui peut se passer sur notre territoire comme l'islamophobie, la xénophobie, etc.
Alors, Alors déjà, nous, il faudrait rappeler que nous, on a une approche matérialiste du racisme, et du coup, on prend en compte ce processus de hiérarchisation dans sa réalité historique et sociale. Et donc, on voit bien que s'il y a eu des moments où le juif était la victime, il est au contraire, en ce moment, il n'était pas du tout dans le groupe qui est victime de ce traitement, de ces rapports de domination. Et donc, on voit bien qu'il y a un traitement différencié entre les juifs et les musulmans, avec les juifs qui seraient toujours des éternelles victimes à protéger, et à protéger notamment des populations, des noirs, des arabes, des musulmans, voilà. Et c'est vrai que c'est de la même façon qu'on doit protéger Israël du reste du monde, on doit protéger les juifs des minorités en France. Pour nous, c'est aussi en fait, ce qu'on pourrait appeler ce qui ressemble à un philosémitisme. C'est aussi une forme de racisme, une forme d'antisémitisme, et qui est donc un processus d'altérisation. Mais cette fois-ci, le juif n'est plus un menaçant et dangereux, mais il devient une personne à protéger, une altérité qu'on tolère, puisque lui serait conforme aux valeurs de la République, et on le tolère pour cela. Alors que, du coup, il y a bien sûr des coupables. Enfin, ça sert aussi à diviser. Et il y a des coupables qui seraient donc voilà, la figure, le noir, l'arabe, le musulman, l'étranger. Et en plus, c'est intéressant de voir aussi comme cette partie d'une racialisation un peu complotiste qu'il y avait dans les années 30 contre le juif, qui était l'élément dangereux et qui complotait. Il y a eu vraiment un basculement dans les années 70, et avec l'arrivée des immigrations postcoloniales, où c'est l'immigré qui devient, lui au contraire, enfin, le musulman, qui est comme dans les théories du grand remplacement, où on a peur des islamistes aussi qui arriveraient et qui voudraient nous imposer la charia dans la France entière. Et du coup, c'est eux qui sont maintenant dangereux. Et en fait, c'est toujours en miroir, où c'est toujours ce rapport, on défend les juifs contre les autres. Et en fait, ça nous met d'ailleurs aussi en danger. Et voilà, c'est aussi cette théorie du nouvel antisémitisme. Du coup, l'antisémitisme ne serait plus un produit de l'histoire française, mais serait la production de ces populations issues de l'immigration postcoloniale. Et après, voilà, c'est aussi un processus qu'on a retrouvé de longue date aussi, cette division. On l'a retrouvé aussi sous l'Algérie coloniale, avec le décret Crémieux en 1870, qui a donc donné la nationalité française aux Juifs, mais qui aussi, il y avait une histoire aussi de questions de population, aussi d'inverser un petit peu le rapport entre nombre d'indigènes et nombre de colons, mais aussi qui a divisé aussi les populations, des populations juives arabes locales, et qui du coup ont été traitées avec exception, et contre le peuple, la population indigène, en fait. Je ne sais pas si tu veux compléter, Nathan, ou si...
Non, peut-être redire ce que tu as déjà évoqué, mais qu'en effet, ce discours général qui se répand de plus en plus, a fortiori depuis le 7 octobre, ce discours de mise en exception, ce discours de toutes les élites, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient politiques, qui cherchent en permanence à produire une espèce de, voilà, de portrait de juifs en danger. Déjà, cette question est portée en permanence sur les plateaux TV, et répand à une espèce de panique morale, et ça a déjà consisté notamment à criminaliser les forces de contestation du mouvement social en France, mais aussi en Grande-Bretagne. Je rappelle que Jeremy Corbyn, qui était un dirigeant radical du Labour Party, est littéralement tombé à cause d'un scandale monté de toutes pièces sur son soi-disant antisémitisme. Et à chaque fois qu'on cherche, on se rend compte que tout cela est proche de n'être que du vent, et que ce qui est reproché, c'est tout simplement des positions fermes et radical sur la situation en Palestine. Donc ce discours qu'on qualifie de philosémite, parce qu'il est un drôle d'antisémitisme, un antisémitisme qui essaye de brosser, disons, une figure essentialisée du juif dans le sens du poil, hein, pour le conformer aux attentes qu'on en a, sert en fait un agenda politique répressif et raciste pour cibler certaines populations et pour détruire certaines forces de contestation.
Oui, et comme le disait justement Camille, c'est une pratique qu'on retrouvait déjà en Algérie colonisée par la France. C'est une pratique qui a toujours été utilisée par l'impérialisme français et qui est encore aujourd'hui utilisée en Israël. Donc est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui un rapprochement entre les discours coloniaux israéliens et le narratif français dont parlaient Yanis et Fatou, qui sont relayés dans nos médias?
Alors oui, déjà on a deux points assez centraux de l'impérialisme occidental. Et ce discours de la menace existentielle, du péril civilisationnel, il est évidemment brandi énormément par les sionistes engagés dans une guerre génocidaire de plus en plus épouvantable, qui maintenant est régionale avec les bombardements sur l'Iran et qui menace même de prendre une ampleur mondiale si jamais les États-Unis s'en mêlent. Alors, pour justifier idéologiquement ces prédations, ces bombardements, ces destructions, il faut toujours recouvrir ça d'un vernis moral. C'est la civilisation judéo-chrétienne brandie par Benjamin Netanyahou face aux forces de l'obscurantisme, je sais pas moi, aux animaux humains, enfin, tous les mots les plus affreux pour qualifier les populations locales. Et en effet, ça fait quand même un drôle d'école. On n'est pas dans une situation aussi catastrophique, aussi cataclysmique, aussi apocalyptique que ce que Israël fait subir aux populations de Palestine et des alentours. Mais ça entre quand même drôlement dans nos oreilles en écho quand on entend certains dirigeants. On aurait dit de l'extrême droite il y a quelques années, mais en fait on ne sait plus très bien, parce que de la droite et puis même d'une forme de gauche qui a perdu absolument tout repère quant à un certain péril civilisationnel, une certaine menace contre la civilisation, des certains réseaux fréristes, certains grands remplacements, je veux dire jusqu'à certaines franges du Parti Socialiste, je pense au printemps républicain, ces idées et cette islamophobie absolue à voix de cité. Et en fait, il y a un rapprochement. C'est l'impérialisme est en crise aux États-Unis comme en Europe occidentale, et des boucs émissaires sont tous désignés pour, comme le disait très bien Yanis, être en fait ceux qu'on jette en pâture devant n'importe quel problème social qui est lié au capitalisme, qui est lié à la crise écologique, etc. Enfin, c'est cette rhétorique messianique de la guerre existentielle, du sauvetage de la civilisation, elle se retrouve à son point de non-retour en Israël, mais en fait, elle fait écho à des discours qu'on trouve très largement dans le champ politique occidental.
Je vous remercie pour cette analyse très claire. Je pense qu'on peut tous autour de la table aisément dire que ce qui se passe en Palestine, et particulièrement depuis le 7 octobre, mais pas à partir du 7 octobre, est révélateur de la violence extrême des méthodes coloniales, de l'impérialisme et des discours racistes et fascistes. Et c'est face à cette violence inouïe qu'est née l'association de Marseille à Gaza. Lola, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette association ?
Ouais, de Marseille à Gaza, c'est une association qu'on a lancée avec Fatou qui est à côté de moi. Après 9 mois de lutte et de mobilisation sur Marseille, on s'est rencontrés après le 7 octobre. Au départ, on a lancé ça un peu dans l'urgence. On a fabriqué des t-shirts militants en sérigraphie pour récolter très concrètement de l'argent et envoyer aux familles sur place. On voulait agir tout de suite et avoir un impact hyper concret. Après, notre démarche, elle s'arrête pas là. La solidarité, c'est pas juste envoyer de l'aide, envoyer de l'argent. C'est aussi comprendre que ce qui se joue en Palestine, ça nous concerne ici, à Marseille, dans les quartiers. On est une association, mais on assume un discours qui est clairement politique. On n'est pas juste dans l'humanitaire. On parle de lutte, on parle de dignité, on parle de justice. Donc on organise des distributions de nourriture et de produits d'hygiène sur place à Gaza avec nos contacts, et on alimente 5 cagnottes différentes de personnes avec qui on est en contact régulièrement. On organise aussi régulièrement des événements pour visibiliser la cause et créer des espaces pour en parler ici à Marseille. Sur les réseaux sociaux, je vous invite à nous suivre, de Marseille à Gaza sur Instagram. On crée aussi pas mal de contenus et des campagnes pour sensibiliser, expliquer et mobiliser les gens. Donc je dirais que de Marseille à Gaza, c'est une association qui est un pont, qui est une passerelle pour soutenir les Palestiniens là-bas et pour construire un véritable front politique et de solidarité ici à Marseille.
Oui, on voit votre travail sur les réseaux sociaux. Il y a des posts très clairs et effectivement très politisés et très radicaux par rapport à ce qu'on peut entendre de certains politiques ou certains milieux militants. Est-ce que de Marseille à Gaza travaille en lien avec d'autres organisations ou collectifs du territoire ?
Oui, de Marseille à Gaza, ce n'est pas un projet isolé. On fait partie d'un tissu militant plus large qui s'inscrit dans des dynamiques collectives antiracistes, anticoloniales. Et c'est comme ça qu'on avance. comme on l'a vu tout à l'heure avec Yanis et avec nos camarades ici présents de Tzedek, la lutte pour la Palestine, elle est vraiment liée à la lutte contre l'islamophobie ici à Marseille et ailleurs. L'islamophobie en France, c'est les mêmes récits qui déshumanisent les Palestiniens là-bas. C'est les mêmes logiques qui permettent le génocide. Ces logiques-là, elles justifient ici les lois racistes, les lois islamophobes, les exclusions, mais aussi les violences policières. On travaille notamment aussi avec Stop Arming Israël, parce que les logiques de surveillance et de répression, les armes, les drones qui testent en Palestine, elles sont souvent appliquées ici, après. Et donc voilà, c'est faire exister une parole populaire ancré politiquement depuis Marseille.
Et tu disais qu'en plus des distributions sur place, il y a des récoltes de dons. Est-ce qu'on peut retrouver le lien sur vos réseaux sociaux, un site internet ?
Oui, sur notre compte Instagram, il y a le lien pour faire des dons sur PayPal. Et on communique systématiquement quand on renvoie l'argent. Et plus on a de dons, plus on peut mettre en place des collectes d'envergure là-bas.
Merci beaucoup Lola pour cette présentation. Merci à tout le monde. Je vais redonner les Instagram de tous les intervenants présents aujourd'hui. Donc on a Nathan et Camille du collectif Tzedek, collectif juif décolonial. Donc c'est Tzedek sur Instagram. Fatou qui aujourd'hui parle au nom du collectif sans nom, hein, c'est ça, contre l'islamophobie.
C'est ça, mais je pense qu'il y a des réseaux, notamment Vague Résistance, donnent des informations, en tout cas sur la lutte contre l'islamophobie ici à Marseille.
Donc vous pourrez retrouver les informations sur le compte Instagram Vague Résistante 13, le compte Instagram de Marseille à Gaza pour être au courant des prochains événements, mais aussi des distributions et retrouver des posts très clairs sur l'actualité. Et Yanis, quel réseau pour suivre
ton actualité ? Si tu peux me permettre un petit instant promo pour un événement, puisque ma personne est secondaire. Demain, on organise un café populaire. On ramène Mathilde Panot dans le 14e place des États-Unis, accompagné de Mohamed Ben Sada, un militant local, lui, qui est de nos quartiers nord. Et l'enjeu, ça va être comment on se mobilise, comment on repolitise nos quartiers, parce que Marseille, ça s'est un peu construit sur une fracture sociale. Et il sera question de comment nous, on va investir ces quartiers-là, comment on va repolitiser les gens, voilà, je vais y arriver. Et évidemment, il y aura une grande place pour la Palestine, parce qu'au-delà du champ moral, ce qui se passe en Palestine a des conséquences matérielles sur ce qu'on vit, nous, à Marseille.
Merci beaucoup Yanis, ça me fait une transition toute trouvée pour la fin de l'émission qui est de rappeler les prochains événements sur notre territoire. Donc on a demain le Café Populaire, donc Place des États-Unis dans le 14e avec les Insoumis.
Voilà, c'est ça exactement.
Le 21 à l'ADAR, il y a une formation qui est dispensée par Tzedek. Je me trompe pas, Nathan, Camille, je parle sous votre contrôle.
Ouais, c'est ça. Ça s'intitule Antiracisme et perspectives décoloniales. C'est un atelier à l'ADAR, gratuit, enfin à prix libre. Ça reviendra sur l'antisémitisme au prisme de l'histoire coloniale et puis ce qu'on appelle le philosémitisme d'État, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder comme on l'aurait voulu, mais sur lequel on reviendra dans un échange horizontal sous forme d'atelier, puis le sionisme, son histoire, la colonisation de la Palestine, et puis l'instrumentalisation raciste qui résulte de tout ça, pour essayer d'y voir plus clair et de s'orienter sur ces questions.
Un deuxième événement organisé par Tzedek aussi le 24 juin prochain, qui aura lieu au Gyptis à la Belle de Mai.
Oui, ça sera au Gyptis, la projection de From Ground Zero, qui est donc, ce sont 22 courts-métrages filmés à Gaza, un documentaire d'1h52 qui est passé mais très rapidement sur Marseille et qui sera suivi d'une discussion avec le Festival Ciné Palestine. On est aussi en attente, peut-être qu'il y a un collectif d'artistes palestiniens qui vont venir parler, mais ce n'était pas encore complètement confirmé. Et il y aura aussi d'autres partenaires qui seront avec nous, qui tiendront des tables à l'événement, et que c'est aussi pour montrer aussi ce front commun. La librairie Transit et puis de Marseille à Gaza qui sera là aussi, et le festival Ciné Palestine.
Super, et je vous rappelle également que tous les dimanches à 14h, il y a une manifestation pour la Palestine au départ de la Porte d'Aix, et pour être au courant également des rassemblements un peu plus spontanés ou avec d'autres thématiques comme l'armement, n'hésitez pas à suivre Stop Arming Israël 13 sur Instagram, Vague Résistante 13. Et enfin... En dernier, mais pas des moindres, un gros événement qui se prépare le 27 juin prochain à la Fraternité. C'est organisé par De Marseille à Gaza et je vais laisser Lola en parler.
Ouais, on vous attend nombreux le 27 juin. Le thème, c'est pour une écologie décoloniale de Marseille à Gaza, en présence de Fatima Wassak. Donc on est super contents de la recevoir et on vous attend nombreux de 17h à 1h du matin à la Fraternité. On va ouvrir la soirée avec une table ronde du coup autour de, comme je le disais, l'écologie populaire et décoloniale, avec le regard de Fatima Wassak, mais aussi des soulèvements de la terre, de Stop Arming Israël, du collectif de jeunes mineurs isolés Binkadi et le CHO3. Donc on va parler de militarisation des territoires, de l'écocide aussi en Palestine et des solidarités concrètes entre ici et là-bas. Parce qu'on le rappelle, on ne peut pas parler d'écologie sans parler de colonialisme, de frontières et surtout de justice. Après tous ces échanges, place un peu plus de légèreté. On aura un cours de dabké, un repas solidaire tout au long de la soirée, des concerts et DJ set jusqu'à 1h du matin. Tous les fonds qui seront récoltés seront renvoyés à Gaza pour soutenir les actions en place là-bas. Et aussi Fatima, qui tu voulais rajouter?
Juste une partie des fonds sera reversée aussi au collectif de mineurs isolés Binkadi.
Okay, super. Tout à fait, merci beaucoup. Donc on vous attend nombreux le 27 juin à la Fraternité, à la Belle de Mai.
Merci beaucoup Lola, merci beaucoup Fatou. Parce qu'effectivement, l'écologie populaire, ce n'est pas des arbres plantés dans les quartiers. Merci à celles et ceux qui ont passé une heure en Palestine avec nous. Merci à Radio Galère pour cette opportunité. Et je remercie à nouveau Nathan et Camille du collectif Tzedek, merci. Yanis, militant des quartiers nord marseillais, Fatou pour le collectif Sans Nom contre l'islamophobie, yes. Lola de Marseille à Gaza. Merci à tous.
Et merci beaucoup à toi Sarah pour nous avoir accueillis et invités ici et organisés brillamment toute cette émission.
Merci. Et je crois qu'on peut retrouver l'émission sur Internet, même quand on n'a pas pu l'écouter. Il me semble que sur Radio Galère, ça fonctionne comme
ça. Oui, absolument. Dès demain, sur le site Internet de Radio Galère, on le repartagera sur tous nos réseaux. Merci à tous. Bonne soirée et à la semaine prochaine pour Une Heure en Palestine. Bintish Shalabi.